Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci. Merci aux musiciens de nous avoir accompagnés dans notre louange au Seigneur. Ce matin, nous allons reprendre notre étude du livre des Juges et nous arrivons au chapitre 6, le chapitre 6 qui relate. Merci Nico, merci. Chapitre 6 qui relate l'une des histoires les plus connues de l'Ancien Testament, celle de Gédéon. Nous avons vu la semaine dernière et les semaines précédentes un des thèmes qui est prépondérant dans ce livre des Juges et qui est un des fils conducteurs de toute la Bible, c'est-à-dire un Dieu puissant qui va se servir d'hommes imparfaits. Et s'il n'utilisait pas les hommes imparfaits, eh bien, il n'aurait personne à utiliser. Mais il semblerait que le Seigneur aime à utiliser les hommes vraiment imparfaits, les petits de ce monde, et cela pour que toute la gloire lui revienne. Et ici encore, l'histoire de Gédéon ne fait pas exception. L'histoire de Gédéon est en fait l'histoire d'un homme qui va passer de la faiblesse à la force, parce que l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec Gédéon, mais Gédéon a des doutes. Alors ce matin, nous allons voir comment Gédéon peut être sûr que l'Éternel est avec lui et comment nous aussi, aujourd'hui, on peut être sûr que l'Éternel est avec nous et pour nous. Alors lisons notre texte, Juges chapitre 6. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et dans les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela est-il arrivé, nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit: Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: Prends la viande et les pains sans levain, Posez-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la face de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama : « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit : « Restes en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel Paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon : « Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal et qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre : « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit : « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas : « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui : « Est-ce à vous de défendre Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Baal, si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu : « Si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'aire de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. » Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu : « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton. Que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Ce matin, nous allons voir 4 points. Nous allons voir premièrement l'ange de l'Éternel. Nous verrons son identité, qui est cet ange de l'Éternel. Ensuite, nous verrons que la parole de l'Éternel est sûre et vraie. Nous verrons ensuite que l'offrande a été acceptée. Et enfin, nous partirons un peu à la chasse aux idoles. Le cycle recommence donc. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'oppression devient de plus en plus pressante. Elle devient de plus en plus forte au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans cette spirale vicieuse de l'idolâtrie. Les Madianites, le peuple choisi par l'Éternel, qui lui est au contrôle de toutes choses, peuple choisi pour dominer sur Israël, est, comme on le voit ici, innombrable. Il est sans pitié. Il est là pour tout dévaster sur son passage. Il est comparé à un essaim de sauterelles. Et les Israélites en sont réduits à se cacher et à vivre en gros dans le premier trou qu'ils trouveront. Ils sont misérables. Alors, ils crient à l'Éternel. L'Éternel répond. Et s'il n'y avait pas la suite du texte, avec le verset 11 et la suite, sa réponse serait absolument terrifiante. Il dit entre les versets 8 et 10, je le lis, l'Éternel leur envoya un prophète, il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. » Si on prend un peu plus tôt, à la fin du livre de Josué, chapitre 24, c'est un discours entre Josué et le peuple. Et Josué exhorte le peuple à suivre l'Éternel et à ne pas s'éloigner de lui. Il dit, je lis Josué 24, verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. » Le peuple répond au verset 16, il dit, « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Sur quoi Josué répond au verset 19, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal. Il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. » Ce sur quoi le peuple dit « Non, non, on n'abandonnera pas l'Éternel, pas de problème. » Et Josué, au verset 25, dit « Très bien, Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. » Josué dit « Très bien, on va conclure une alliance, si vous êtes sûr de votre coup, on va conclure une alliance. » Et ça portera témoignage contre vous. Ici, l'Éternel dit, vous ne m'avez pas écouté. Le Seigneur est en train de dire au peuple qu'ils ont rompu l'alliance qu'ils avaient faite au temps de Josué. Lorsqu'une alliance est conclue, c'est-à-dire un contrat, les deux parties s'engagent à respecter les termes du contrat. Par exemple, lorsque l'on trouve un travail, on signe un contrat et on s'engage à respecter certaines choses. L'employeur, tout autant que l'employé. Et si l'un des deux parties ne respecte plus ce contrat, eh bien, il y a séparation. Le contrat est rompu. Ici, l'Éternel dit au peuple, « Vous avez brisé le contrat, et ainsi, la justice dit que vous devriez disparaître. » Et les premiers mots du verset 11, juste après qu'il ait dit, « Vous ne m'avez pas écouté », ces premiers mots sont, « Puis l'ange de l'Éternel. » Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et il lui dit, « Je suis avec toi. » L'Éternel n'a pas abandonné son peuple. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire ange, l'envoyé de l'Éternel, vient à la rencontre de Gédéon. Mais qui est cet ange de l'Éternel? Nous rencontrons l'ange de l'Éternel à plusieurs reprises dans le livre des Juges, au chapitre 2, puis au chapitre 3, et ici encore. Et dans l'Ancien Testament, on le rencontre à plusieurs fois. En Genèse, chapitre 18, Exode, chapitre 3, Josué, chapitre 5. En apparence, cet ange de l'Éternel ne semble pas avoir été très impressionnant. Il faut attendre effectivement le verset 21 avant que Gédéon réalise pleinement qu'il a affaire à une figure divine. Il ne s'agit donc d'un personnage que d'apparence humaine. Très humaine. Mais il y a un mystère et une tension remarquable dans toute la description biblique de l'identité de cet ange. D'une part, on nous dit ici dans notre texte, au verset 12 et au verset 20, l'ange dit, c'est l'ange qui prend la parole. Mais d'autre part, on nous dit aussi au verset 16 et au verset 18, l'Éternel dit. Voyez le truc. Parfois, ce personnage est appelé l'ange de l'Éternel, et parfois il est appelé l'Éternel. Alors on pourrait se dire, peut-être que l'ange est une sorte de canal de communication, une sorte de haut-parleur divin à travers lequel l'Éternel va parler. Mais alors à ce moment-là, que faire du verset 14 qui nous dit « L'Éternel se tourna vers Gédéon ». C'est remarquable. C'est remarquable et c'est déroutant. Ce personnage est à la fois l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire l'envoyé de l'Éternel, et l'Éternel lui-même. C'est là un des mystères de l'Ancien Testament qu'il est possible de comprendre seulement à la lumière du Nouveau Testament. S'il n'y a qu'un seul Dieu, comment peut-il à la fois être au ciel, ayant envoyé cette figure visible, et être lui-même la figure visible? S'il s'agissait simplement de Dieu venu sous forme humaine, pourquoi ne dit-on pas simplement et seulement qu'il est l'Éternel, mais aussi l'ange de l'Éternel, l'envoyé de l'Éternel? Voyez le mystère. La parole nous dit que l'Éternel a envoyé son messager qui est l'Éternel. La seule explication qui tienne la route et que nous avons ici à faire. Nous avons ici une indication que notre Dieu, unique et néanmoins multipersonnel, nous avons ici une profonde allusion à la Trinité. Il y a de bonnes raisons de considérer ce personnage, cet ange de l'Éternel, comme Dieu le Fils lui-même, Jésus-Christ. À ce moment-là déjà, il se soucie d'apporter la paix et le salut à son peuple. Cet enchaînement du verset 10 et du verset 11 est vraiment remarquable. Verset 10, vous ne m'avez pas écouté. La conséquence de l'alliance, la conséquence de la loi, c'est que vous soyez supprimés. Et verset 11, puis l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire puis Jésus-Christ. Au verset 11, l'ange de l'Éternel apparaît donc à Gédéon. Gédéon qui est en train de battre du blé au pressoir à raisin pour faire du vin. Ce n'est ni un endroit normal, ni un endroit idéal pour faire cela. Le pressoir est en bas de la colline, là où il n'y a pas de vent. Alors que pour battre le grain, il faut être en haut de la colline, là où il y a du vent. On bat le grain sur un drap avec un instrument, une sorte de bâton, afin de séparer le grain de l'épi. Et puis on jette le tout en l'air afin que le vent emporte l'épi plus léger et laisse retomber le grain seul. Le problème, c'est que sur la colline, Gédéon serait visible par tout le monde. Les Madianites le verraient, lui prendraient sa récolte, et c'est pour cela qu'il essaie de faire son travail d'agriculteur au fond de son trou. Probablement avec peu de succès et beaucoup de frustration. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Cela va provoquer deux réactions chez Gédéon. Premièrement, il va dire, « L'Éternel n'est pas avec nous. L'Éternel nous a abandonnés. » Et deuxièmement, il va dire, « Je ne suis pas un vaillant héros. » Il dit premièrement que l'Éternel les a abandonnés. Et son argument est le suivant. « Dieu n'est clairement pas avec nous, puisqu'il nous a mis entre les mains de Madian, au lieu de nous secourir comme il l'avait fait pour nos ancêtres. » Toute cette situation est très ironique et aussi un peu tragique. D'abord, nous voyons que l'Éternel dit au peuple qu'il l'a abandonné, ce qui suggère qu'il devrait les supprimer, ce serait que justice. Mais l'Éternel vient lui-même, sous la forme d'un homme, l'ange de l'Éternel, pour dire à Gédéon qu'il est avec lui, qu'il ne l'a pas abandonné. Et voici que Gédéon prend la parole et dit « Ah Seigneur, tu nous as abandonnés. La preuve, nous sommes opprimés. Nous passons par tant d'épreuves. Mais nous, nous savons en tant que lecteurs que l'Éternel permet cette domination des Madianites, non pas parce qu'il les a abandonnés, mais justement parce qu'il ne les a pas abandonnés. Parce qu'il veut que les Israélites crient à lui, qu'ils reviennent vers lui. » Et c'est aussi pour cela que plus nous avançons dans cette spirale vicieuse, plus les Israélites s'éloignent de l'Éternel et plus l'oppression doit être forte pour qu'ils se tournent vers lui et crient à l'Éternel. Deuxièmement, il dit qu'il n'est pas un vaillant héros. Déjà, il est dans un pressoir en train d'essayer de battre du grain. Ensuite, il dit qu'il est le plus petit de sa famille, que sa famille est la plus petite de sa tribu, et que sa tribu, bon, il ne le dit pas, mais sa tribu, honnêtement, ce n'est pas une tribu prépondérante dans Israël, la tribu de Manassé. Il ne se sent pas du tout être un vaillant héros. Et franchement, lorsqu'on lit le texte au chapitre 6, on pourrait arriver à la même conclusion que lui. Certains auteurs ont même suggéré que l'Éternel a le sens de l'humour lorsqu'il appelle Gédéon un vaillant héros. Mais la réalité, c'est qu'au chapitre 7, Gédéon va bel et bien devenir un vaillant héros. Comme il est facile pour nous de commettre les trois erreurs de Gédéon. Premièrement, nous avons tendance à considérer nos problèmes comme la preuve que Dieu nous a quittés. « Ah, Seigneur, nous disons, si tu étais avec moi, tu ne permettrais pas, certainement pas cette épreuve dans ma vie. Tu ne permettrais pas que je sois opprimé de la sorte. » Alors que la réaction que nous devrions avoir face à cette épreuve devrait être au contraire de faire confiance à l'Éternel et de nous demander comment est-ce qu'il est en train de travailler en nous, pour notre bien, avec ces circonstances, comme il l'a promis. Deuxièmement, dans la difficulté, nous demandons souvent que Dieu fasse quelque chose pour nous. Nous demandons « Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas quelqu'un pour nous aider ?» En fait, nous disons « Seigneur, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose ? Pourquoi n'enlèves-tu pas cette mauvaise circonstance de ma vie ? Seigneur, pourquoi ne supprimes-tu pas simplement ce problème ?» Alors que ce que nous devrions dire, c'est « Seigneur, merci pour cette épreuve que tu permets dans ma vie, qui m'apprend la persévérance, la maîtrise de moi-même et la patience. » Nous devrions dire « Seigneur, fais de moi la personne qui apprendra à supporter cette épreuve. » Et la troisième erreur de Gédéon, qui est sans doute la plus grave, c'est son incrédulité. L'Éternel dit qu'il est avec lui, Gédéon ne le croit pas. L'Éternel dit qu'il est un vaillant héros, Gédéon lui dit non, il ne le croit pas. Vous voyez, il a l'impression que l'Éternel l'a abandonné et il ne se sent pas être un homme bien vaillant. Gédéon base ce qu'il comprend être la vérité sur ce qu'il ressent plutôt que sur la parole de l'Éternel. Il y a quelque temps, je regardais la vidéo d'un question-réponse après une prédication de John MacArthur. Et une jeune femme arrive vers le micro, elle était de toute apparence très émue, et elle dit ceci à MacArthur. « Je suis chrétienne, j'ai placé ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, mais aujourd'hui, j'ai des doutes et je ne suis plus sûre. Alors si j'ai perdu l'assurance de mon salut, est-ce que je suis réellement sauvée ? » Question qui paraît pas facile de prime abord. MacArthur, lui, n'hésite pas un seul instant et il répond, c'est très facile. La seule question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? La parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que tu doutes ? Pourquoi est-ce que tu manques d'assurance ? Il explique ensuite qu'il y a une grande différence entre assurance du salut et sécurité en Christ. Notre assurance, Dieu nous la demande et il y prend plaisir. Mais notre assurance reste un sentiment. C'est nous qui la produisons. Et si notre salut dépendait de notre assurance, nous serions, pour utiliser une expression familière, très mal barrés. Nous ne devons absolument pas construire notre identité sur ce que nous ressentons. Car peut-être aujourd'hui je suis en forme et du coup je n'ai pas de doute, je suis sûr, tout va bien. Mais peut-être que dans quelques mois je passerai une mauvaise période et je serai moins sûr. Construire notre identité sur ce que nous ressentons, ce serait comme construire sa maison sur du sable, sans fondation sûre. Tout peut s'écrouler d'un instant à l'autre. Notre sécurité est en Christ, dans son œuvre à la croix et dans les promesses de sa parole. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le jour où ça va moins bien, le jour où je commence à douter, eh bien, je peux prendre la parole de Dieu et relire ses promesses. Et devinez quoi ? Elles n'ont pas changé. que nous soyons abattus, dans la joie, dans le doute, peu importe, la parole de Dieu et ses promesses sont immuables, elles sont inchangées, elles sont notre sécurité. La parole de Dieu est le rocher sûr et solide sur lequel nous devons construire qui nous sommes. Comment savoir si Dieu est avec nous ? Eh bien, c'est simple, il nous le promet, il nous le dit dans sa parole, et sa parole est sûre et certaine, elle est vraie. Reprenons notre texte. Au verset 15, Gédéon dit en gros, je paraphrase, « Tu me demandes de délivrer Israël avec la force que j'ai. » Mais je n'ai pas beaucoup de force pour cela. Avec quoi est-ce que je vais bien pouvoir le faire ? Voyez, Gédéon cherche un quoi ? Il cherche un instrument spécial ou peut-être une force intérieure qu'il pourrait produire, une sorte de courage ou de fougue. Et Gédéon ici a raison, dans le sens qu'il n'y a absolument rien, absolument aucun instrument sur cette terre qui pourront lui permettre de gagner la bataille qui l'attend. Et au verset 16, l'Éternel répond « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon n'a pas besoin d'un quoi, Gédéon a besoin d'un qui. Et l'Éternel, il n'est pas n'importe quel qui. Le Seigneur nous dit à nous aussi, aujourd'hui, heureux ceux qui croient, sans avoir vu. Car Gédéon a des doutes et il lui demande un signe. Il lui dit, Gédéon n'est pas convaincu et il lui dit de rester là jusqu'à ce qu'il apporte son offrande. Gédéon, il dit, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. Il est en train de dire ça à l'Éternel. Il est gonflé quand même. Il aurait au moins pu lui dire, écoute Seigneur, éternel maître de l'univers et créateur de toutes choses, est-ce que tu voudrais bien daigner attendre ici au fond de mon trou le temps que j'aille te préparer mon offrande et que je revienne ? Gédéon s'apprête donc à faire attendre l'Éternel. Il s'apprête à faire poireauter l'Omnipotent. Et pas juste 5 minutes, parce qu'au verset 19, on nous dit, Gédéon entra chez lui pour préparer un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Ça ne devait pas prendre 5 minutes tout ça, mais plutôt toute la journée. Et au verset 18, l'Éternel, dans toute sa patience, son amour et son humilité, lui dit simplement, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Puis Gédéon revient, l'Éternel lui donne les instructions sur comment en présenter l'offrande. L'ange de l'Éternel avance son bâton, accepte l'offrande, puis il disparaît de la vue de Gédéon. À ce moment-là, Gédéon comprend réellement à qui il avait affaire. Lorsqu'il comprend qu'il est véritablement qui il dit qu'il est, il a peur de mourir. La réaction logique du pécheur en présence de la sainteté parfaite de Dieu. Il voit Dieu dans toute sa sainteté et il comprend que l'Éternel est en train de le voir en toute transparence, lui, dans tout son péché. Et il comprend que la justice de Dieu fait qu'il ne pourra pas survivre à cette rencontre. Et au verset 23, l'Éternel répond, « Reste en paix, tu ne mourras pas. » Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. La réaction de Gédéon est une réaction, on peut le comprendre, de grande reconnaissance. Et il construit un autel et l'appelle l'éternel paix. Je disais donc que cette section, à partir du verset 10 et jusqu'au verset 24, commence par l'Éternel disant « Vous ne m'avez pas écouté, vous avez rompu l'alliance ». La logique étant que Dieu, un Dieu juste, eh bien, il devrait faire disparaître son peuple, comme c'est écrit à la fin du livre de Josué. Et cette section, elle finit avec l'Éternel qui dit au chapitre 20, au verset 23 « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Elle commence en disant « Tu as rompu mon alliance et ainsi tu devrais mourir. » Et elle finit en disant « N'aie pas peur, reste en paix, tu ne mourras pas. » Voici le plus grand mystère de l'Ancien Testament. D'un côté, comment un Dieu juste peut-il laisser subsister son peuple ? Ce peuple qui a rompu l'alliance. Mais de l'autre côté, comment pourrait-il faire disparaître son peuple qu'il a promis de bénir ? Pour dire les choses autrement, si Dieu choisit de laisser vivre son peuple et de l'aimer, il est un Dieu d'amour, certes, mais il n'est pas un Dieu juste. Mais si Dieu choisit d'appliquer sa justice et de faire disparaître le peuple comme il le mérite, il serait un Dieu juste, oui, mais il ne serait pas un Dieu aimant. Et dans les deux cas, il ne serait pas un Dieu qui tient ses promesses, car l'Éternel a promis à la fois de bénir le peuple, mais il a également promis que le péché ne resterait pas impuni. Ce mystère est grand, et ce mystère pointe directement vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui ce jour-là a accepté l'offrande de Gédéon et qui, environ 13 siècles plus tard, va lui-même devenir l'offrande, l'agneau à la croix, qui offre la justice à son Père et la paix au monde, réconciliant ainsi la justice et l'amour de son Père, une fois pour toutes. Comment pouvons-nous savoir que Dieu est avec nous ? Eh bien, parce que la résurrection de Jésus est le signe que le Père a accepté son offrande. Il est le signe que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. Et de la même façon que l'ange de l'Éternel était avec Gédéon, Jésus-Christ est aussi avec nous aujourd'hui à travers son esprit. Et de la même façon qu'il a dit à Gédéon, « Je reste jusqu'à ce que tu reviennes. » Il nous dit également aussi à nous aujourd'hui, à celles et ceux qui se sont éloignés de lui, « Je suis le rocher sûr et solide sur lequel tu peux construire ta vie. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes à moi. » La deuxième partie de ce chapitre 6, on voit un Gédéon qui grandit. Il est toujours peureux et il a toujours des doutes. Mais le Seigneur est avec lui et Gédéon obéit. Le Seigneur commence par lui dire « Je t'envoie, mais avant d'aller faire le ménage dans le pays, c'est-à-dire avant de combattre l'oppresseur, les Madianites, il va falloir que tu commences par faire le ménage chez toi. C'est-à-dire, il va falloir que tu abattes les idoles qui sont dans ton propre jardin. » Il n'est en fait pas surprenant que Joas possède un autel et un poteau pour l'adoration des divinités cananéennes. Il avait clairement, Joas, enseigné à ses enfants l'exode d'Égypte et que c'était l'Éternel, le Seigneur, qui les avait fait sortir, lui et ses ancêtres d'Égypte. Mais il avait également choisi de servir Baal. Il faut bien comprendre que les Israélites n'avaient pas abandonné, dans un certain sens, le Dieu d'Israël. Ils avaient en fait combiné l'adoration de Dieu avec ses idoles. Ils adoraient Dieu officiellement, on pourrait dire le dimanche, mais en fait, leur vie tournait autour d'idoles agricoles, s'ils étaient agriculteurs, ou d'idoles commerciales, s'ils étaient dans le commerce, dans les affaires, ou bien d'idoles du sexe, de la beauté, et ainsi de suite. Avant donc de pouvoir se débarrasser des ennemis qui les entourent, les Madianites, ils doivent se débarrasser des ennemis qui sont au milieu d'eux, dans leur propre cœur, dans leur jardin, les faux dieux de Canaan. Et aujourd'hui, c'est encore et toujours la principale façon d'obtenir un renouveau dans nos vies. Dieu ne nous aidera pas à sortir de nos problèmes évidents et visibles, problèmes d'argent, problèmes relationnels, tant que nous ne verrons pas la vraie racine de ces problèmes, c'est-à-dire les choses dans nos vies qui prennent plus d'importance que Dieu. Elles doivent d'abord être enlevées ou repensées. Elles doivent prendre leur place légitime, leur place véritable, c'est-à-dire après Dieu. Gédéon est essentiellement invité à faire de Dieu le Seigneur dans tous les domaines de sa vie. Et nous ne devons rien ajouter à Jésus-Christ pour être heureux. Nous ne devons pas utiliser Dieu pour obtenir ce que nous voulons vraiment, mais nous devons faire de Jésus-Christ et de son Père celui que nous voulons vraiment. Gédéon commence à allier sa force à la présence du Seigneur et fait ce que le Seigneur lui demande. Il démolit l'idole qui est dans le jardin de son père. La réaction des villageois à cela, elle montre à quel point l'idolâtrie peut être dangereuse, à quel point l'idolâtrie peut être addictive et à quel point on peut s'attacher à ses idoles. Ils disent à Joas, « Fais sortir ton fils Gédéon et qu'il meure. » Lorsqu'ils voient que leurs idoles ont été détruites, ils disent, « Ah, celui qui a fait cela doit mourir. » Mais la réaction du père de Gédéon montre aussi qu'il y a de l'espoir et que nous pouvons, par la grâce de Dieu, venir à bout de nos idoles avec le Seigneur. Le Seigneur ne partagera pas avec Baal le cœur du peuple. Il est un Dieu jaloux. Et enfin, les derniers versets de ce chapitre 6 relatent l'une des histoires les plus connues du livre des Juges. Gédéon et cette fameuse peau de mouton, cette toison. Gédéon n'est toujours pas sûr de l'appel et de la promesse de Dieu. Il dispose donc une peau de mouton et demande à Dieu de confirmer ses plans en faisant que cette toison seule prenne la rosée et pas le sol. Puis il demande à Dieu de confirmer à nouveau en inversant la demande. Il demande cette fois que la peau reste sèche et que seul le sol prenne la rosée. Et le Seigneur lui fait grâce et répond à sa prière dans les deux cas. Nous avons encore ici un exemple de la patience et de l'amour de Dieu pour son peuple. Il faut bien comprendre que Gédéon n'était pas en train de chercher la volonté de Dieu. Dieu lui a clairement dit ce qu'il voulait de lui. Nous ne devons donc surtout pas utiliser ce texte comme l'exemple de quelqu'un qui demande à Dieu sa volonté. La demande de Gédéon est de recevoir de l'aide pour construire sa confiance en lui, sa foi. Et Dieu, dans sa grâce, lui a répondu deux fois. Lorsque nous faisons la même demande, c'est-à-dire lorsque nous demandons à Dieu de renforcer notre foi et notre confiance en lui, Dieu répond gracieusement en nous montrant la révélation la plus complète et la plus définitive de son caractère et de ses desseins. Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque, comme Gédéon, nous doutons des promesses de l'Éternel et de la présence de Dieu dans nos vies, nous pouvons lui demander de nous renvoyer à son Fils en disant « Je crois, Seigneur. « Viens au secours de mon incrédulité. » C'est ce dont Gédéon avait besoin et c'est ce qu'il a reçu. Et le Seigneur fera de même pour nous. Alors prions. Notre Père, notre Dieu, tu es un Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, tu es également notre Père et tu t'es fait notre Père, notre Papa. À travers ton Fils Jésus-Christ, que tu as donné en sacrifice pour nous. Seigneur, ce mystère est grand. Toi qui es un Dieu au-dessus de toutes choses, tu as daigné venir ici, sur terre, et mourir pour nous. Seigneur, je te remercie du fond de mon cœur pour ce sacrifice que tu as fait, afin que nous puissions avoir l'assurance de notre salut, afin que nous puissions être sûrs que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, tu es le roc sûr et solide, tu es notre ancre, tu es l'ancre de notre âme. Seigneur, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, à travers ton esprit qui habite en nous. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui passent des mauvaises périodes ce matin, pour tous ceux qui sont dans le doute. Je te prie qu'ils ne puissent pas faire confiance à leurs doutes, mais uniquement à ta parole, qui est immuable, qui ne change pas, qui ne changera jamais, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta grâce avec nous et les promesses de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.